Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous permet de saluer cet événement qui est celui de la parution d'une réédition de l'ouvrage de William Röpke, Au-delà de l'offre et de la demande, présenté par Patricia Commin à la Bibliothèque classique de la Liberté aux Belles Lettres. Et pour ce faire, pour commenter cette réédition, cette parution, je reçois le philosophe Alain Laurent, qui dirige la collection de la Bibliothèque classique de la Liberté, précisément chez les Belles Lettres. Alain Laurent, bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous accueillir sur une antenne où déjà nous avons eu le plaisir de vous recevoir. C'était il y a un an pour d'autres parutions. Vous êtes un grand spécialiste de Turgot et vous êtes aussi, à vos heures, un spécialiste du libéralisme, si je puis dire.
C'est cela, oui. Enfin, j'ai beaucoup de casquettes, si je puis dire. Hein. Je suis historien des idées, philosophe, donc dans le domaine de la philosophie politique. Ce qui m'amène à donc publier sur tous ces sujets. Ben, le dernier dont nous avions parlé l'année dernière, c'était la société ouverte et ses nouveaux ennemis.
Tout à fait,
mais là, je viens plutôt comme directeur de collection.
C'est ça. Hein, donc,
il permet
de parler des livres des autres. Vous le faites toujours avec grand talent. Alors, un mot peut-être d'ailleurs pour cet auteur, Patricia Commin, qui est en fait germaniste et maître de conférences à l'université de Cergy-Pontoise et qui a dirigé l'ouvrage « L'ordolibéralisme allemand ». En 2003, je ne sais pas chez qui précisément.
Oui, c'est un éditeur universitaire. Patricia Commin, oui, est une germaniste qui s'est spécialisée aussi dans l'histoire des idées, mais relativement à l'Allemagne contemporaine. C'est la meilleure spécialiste en France de toute cette période qui est un intérêt capital, puisque c'est celle de ce qu'on appelle souvent, juste titre, le miracle allemand, le miracle économique allemand d'après-guerre, dont Wilhelm Röpke est au fond le père intellectuel avec quelqu'un d'autre qui est Walter Eucken. Et ils sont en même temps à l'origine de cette idée qui a connu un grand retour ces dernières années, même cette année, celle d'économie sociale de marché, particulièrement mal comprise en France d'ailleurs.
Justement, ce qu'on peut remercier la crise pour avoir porté au moins une bonne nouvelle, c'est celui de la recherche de nouvelles voies et de relais de croissance au vieux modèle, on va dire, industriel qui s'est installé à la fois aux États-Unis et dans la vieille Europe, et pour trouver d'autres pistes et d'autres logiques d'entreprise, on va dire, plus sociales.
Mmh.
Alors, l'économie sociale de marché dont William Röpke est le père spirituel et auquel il donne le vrai sens, on va y revenir tout à l'heure, serait-elle la réponse la plus proche de ce capitalisme idéal que beaucoup appellent de leur vœu et dont on se plaît de rêver? Alors, selon vous, c'est cette réponse? En tout cas, c'est une partie de la réponse?
C'est une partie de la réponse, parce que la singularité de Wilhelm Röpke, qui était le conseiller des gouvernements allemands, il était le conseiller d'Adenauer, hein, ce qui n'est pas le conseiller économique principal d'Adenauer, à l'époque, très proche de Ludwig Erhard. Donc, vous savez l'importance qu'ont eu tous ces gens. Donc, la singularité de Wilhelm Röpke, c'est d'adhérer tout à fait à l'économie de libre marché. Ce qui nous donne déjà un premier résultat pour comprendre ce qu'est l'économie sociale de marché, c'est une économie de libre marché, mais qui a une dimension sociale, ce qui reste d'ailleurs à préciser. Donc, c'est quelqu'un qui est tout à fait partisan de la liberté de concurrence, de la liberté des prix. Et c'est là qu'on voit déjà la grande différence par rapport à ce qu'on entend habituellement et au prix d'une forte édulcoration par économie sociale en France. L'économie sociale de marché, c'est d'abord de l'économie de marché, je dirais presque
à
l'état pur.
À l'état pur,
dans son sens, avec liberté de concurrence, liberté du travail, etc. Simplement, Wilhelm Röpke considère, comme tous ses amis de ce courant de pensée très important qui s'est développé en Allemagne à partir de la fin des années 30 jusqu'au milieu des années 60, ce qu'on appelle l'ordolibéralisme. Et ordolibéralisme, c'est un courant du libéralisme. Et ordo veut dire que ce sont des gens qui sont absolument soucieux d'une préservation de l'ordre social. Et ils veulent éviter qu'il y ait de trop grosses secousses, qu'il y ait des crises, qu'une partie de la population se sente exclue du bénéfice du libre marché. Et ils veulent en particulier que la liberté de la concurrence, la liberté des prix et tout ce qui leur est associé soit garantie par la Constitution. Et si c'est garanti par la Constitution, et on verra quelle est la traduction pratique, eh bien, en effet, la société peut être sécurisée dans le maintien de son ordre.
Alors donc, il ne faut pas comprendre simplement l'économie sociale de marché comme une troisième voie entre le capitalisme et le socialisme. Et donc, il faut interpréter social autrement, c'est-à-dire comme la volonté de faire porter au marché une camisole de force, et encore moins comme le soutien aux thèses de Keynes ou de l'État-providence, c'est ce que vous dites.
Donc, absolument. Patricia Comin le dit très bien dans sa préface. Et puis alors, il y a des dizaines de pages qui sont consacrées à cela dans l'ouvrage, dont il faudrait d'ailleurs quelque chose sur le titre qui peut induire en erreur. Mais je reviens déjà à votre question. Ce qui compte pour Wilhelm Röpke, c'est que l'économie de marché soit solidement ancrée dans la société, qu'elle ne soit pas un facteur de perturbation de la société en fabriquant des exclus, en provoquant des crises, mais qu'autrement, et avant tout peut-être sur le plan moral, elle soit fondée sur quelque chose de beaucoup plus solide. Alors, vous le faisiez remarquer, il ne faut absolument pas qu'il y ait de contresens. Social, ici, n'a rien à voir, au contraire, avec le socialisme. Il n'y a pas de plus grand adversaire intellectuel du socialisme que Wilhelm Röpke. C'est un ennemi déclaré de l'État-providence. Mais voyez-vous le contresens. En France, dès qu'on parle d'économie sociale, pense à l'État-providence. Et Wilhelm Röpke dit tout sauf ça, puisque c'est à la prolétarisation des gens enfermés dans l'assistance. Donc, pas
social,
question.
Ce n'est pas socialiste.
Exactement. Social, il faut plutôt le comprendre au sens de sociétal et presque culturel. Et en effet, son grand ennemi, c'est Keynes. Voyez-vous, comme la question est actuelle, puisqu'on cherche en effet des voies de sortie aménagées pour résoudre la crise, mais ce n'est pas du tout, du point de vue de Röpke, ça ne peut pas être le retour à Keynes. Ce serait la catastrophe intégrale.
Je vous cite ce qu'il dit concernant Keynes. L'inflation chronique, l'interventionnisme dépensier et l'irresponsabilité. Donc effectivement, on comprend qu'il ce n'est pas un adepte forcené des thèses keynésiennes.
Et ce que reproche le plus fortement Röpke à Keynes, c'est la parole très célèbre de Keynes, à long terme, nous serons tous morts. Il la cite au moins 10 fois dans l'ouvrage, puisque pour lui, c'est le chef-d'œuvre de l'irresponsabilité à long terme. Provoquer une augmentation fantastique de la dette et de la dépense publique sur le moment, sans se préoccuper des conséquences pour les générations futures. Pour lui, vraiment, c'est absolument lamentable. C'est peut-être malheureusement ce qui va se vérifier maintenant.
Alors, est-ce que le système, l'économie sociale de marché, alors, est-ce que ce n'est pas l'antithèse de la répartition dont on va parler à travers les retraites?
Absolument. Bonne question, tout à fait d'actualité. Parce qu'il y a deux points forts qui sont sans cesse soulignés et très concrets, qui sont soulignés par Röpke dans son ouvrage. D'une part, s'il est adversaire de l'État-providence sous toutes ses formes, c'est parce que pour lui, rien ne vaut la prévoyance individuelle, alors qu'elle soit purement individuelle. En tout cas, il faut qu'elle soit volontaire ou en association avec d'autres dans des mutuelles. Mais que surtout l'État ne s'en mêle pas. Laissez à chacun la responsabilité de préparer son propre avenir dans le domaine de la retraite. Donc voilà le premier point.
Rejoint Turgot là.
Ah, on rejoint tout à fait Turgot. Le retour à la responsabilité individuelle et au fait que nul n'est mieux placé que l'individu lui-même sans forcément qu'il comprenne tout. Et chacun évidemment peut commettre des erreurs. Mais il en commettra probablement moins que ceux qui préfèrent trancher à sa place. Et le deuxième point qui est extraordinairement d'actualité, c'est que donc, lorsque quelqu'un veut préparer sous sa propre responsabilité sa retraite, il faut qu'il épargne. Et alors, cette dialectique entre l'épargne et le crédit, qui est un point très important dans l'ouvrage de Röpke. Alors, il est curieux de voir qu'à l'époque, donc, l'ouvrage est paru en 1958 en Allemagne. En France, ça correspond au début des fameuses 30 glorieuses. Et Röpke, en bon penseur qui est attaché tout de même à la solidité des traditions, s'alarme déjà de la facilité du crédit auquel fait appel la publicité. Et pour lui, tout doit être gagé sur l'épargne. L'épargne est associée à la responsabilité individuelle, est le gage de tout.
Oui, donc on en revient à une question centrale que vous développez d'ailleurs dans une critique qui est assez remarquable. Quel est le vrai sens de l'économie sociale de marché? Donc en grande synthèse pour nos auditeurs.
Oui, alors donc il faut commencer par le commencement. Ce qui donne le lieu à le plus de contresens est social. Le retraduire. D'ailleurs, moi, j'en ai parlé avec des Allemands. J'avais organisé un colloque à la Défense il y a quelque temps là-dessus. Et les participants allemands disaient, mais en effet, on est toujours très étonnés de voir la manière dont les Français traduisent automatiquement social pour eux. Social, ça renvoie à assistance et à État. Le social dont il est question ici, c'est encore une fois le fait que l'économie et le libre marché n'ont de sens que s'ils sont solidement ancrés dans les valeurs qui font d'une société libre et une société humaine. Une bonne traduction d'économie sociale de marché, ce serait économie humaine de libre marché.
Je lis ce que vous avez écrit, qui est d'une clarté biblique. Pour Röpke, qui n'emploie d'ailleurs pas cette expression forgée par Ludwig Erhard, qui renvoie de fait à un ordre institutionnel protecteur, qui est la marque de l'ordolibéralisme, mais aussi à un ordre sociétal décentralisé et démassifié, et à un ordre éthique fondé sur des valeurs civilisationnelles qui ont fait leur preuve, entre parenthèses la propriété privée, la responsabilité individuelle, la loyauté, la préférence pour les petites communautés ouvertes dont les PME allemandes sont un bon exemple, la famille nucléaire, mais certainement pas la cupidité.
Oui, et justement, la préfacière Patricia Comin avait très bien démontré que tout le réseau que tout le monde admire de petites et moyennes entreprises allemandes qui fait la réussite de l'économie allemande, ce qui fait que l'Allemagne a bien plus vite redémarré dans le cadre de la crise actuelle, c'est justement le résultat de l'économie sociale de marché, de cette décentralisation, du fait que, encore une fois, ce n'est pas l'État qui comprend le mieux tout ça, qui ne peut pas le régir.
Alors, est-ce que les Allemands sont un peu dans cette philosophie-là, enfin l'État allemand en tant que tel, aujourd'hui, ou ils s'en éloignent ?
Non, alors, ils y sont revenus d'autant plus que lorsque sont intervenues, il y a un peu plus de 6 mois, les dernières élections allemandes qui ont reconduit Angela Merkel, eh bien, les 3 partis en concurrence, le SPD, la CDU et le FDP, les libéraux, étaient tous en concurrence pour dire « Nous sommes, nous, les meilleurs défenseurs de l'économie sociale de marché », y compris les libéraux, y compris les socialistes. Alors évidemment, c'est entre les deux la chancelière qui l'a emporté. Mais parce qu'ils ont une vision dynamique, plus rigoureuse, en effet, à la fois de l'économie de marché et de l'État social.
Donc, on peut dire, je vous lis, enfin en tout cas, vous citez un des passages de l'ouvrage, en page 182, que l'économie sociale de marché, celle qui est décrite dans l'ouvrage de William Röpke, « Au-delà de l'offre et la demande », et je vous cite, « C'est une économie humanisée de libre marché dont le destin se décide au-delà de l'offre et de la demande, car le marché et la concurrence sont loin de créer eux-mêmes les conditions dont ils ont besoin. »
Oui, ces conditions sont d'ordre moral avant tout, et pas du tout social comme on pourrait le croire. Aller au-delà de l'offre et de la demande, ça ne veut pas dire dépasser le marché. Ça veut dire refonder davantage le marché.
D'accord, c'était ce que vous vouliez dire tout à l'heure en rappelant qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'ambiguïté sur le contenu, qu'il y a derrière donc, ce titre « Au-delà de l'offre et la demande ». Peut-être une question d'actualité. Vous avez l'impression que cette théorie, et en tout cas que ce modèle, a tendance à progresser au-delà de sa sphère, on va dire, d'implantation traditionnelle
Pas forcément. Enfin, la situation confuse de ce point de vue-là. Il faut savoir d'ailleurs que l'expression « économie sociale de marché », donc encore une fois, Röpke, est le père intellectuel avec Walter Hugen, elle figure dans le traité de Lisbonne. C'est presque l'idéologie officielle de l'Union européenne. Mais alors, ça a été happé par la bureaucratie. Et par exemple, un thème qui est cher à Röpke, enfin deux thèmes qui sont chers, comme ne surtout pas enfler démesurément la dépense publique et décentraliser, ce qui peut être interprété comme une référence à l'idée de subsidiarité, eh bien tout cela n'est pas tellement respecté actuellement, puisque l'Europe tente de plus en plus de vouloir tout uniformiser, alors que Röpke concevait l'Europe, c'était un très grand Européen à l'époque de Adenauer, etc., de Robert Schuman. Mais pour lui, ça avait tout de même une vocation beaucoup plus décentralisée, beaucoup plus fédérale peut-être.
Alors voilà, donc c'était les commentaires du philosophe Alain Laurent, directeur de la collection Bibliothèque classique de la liberté donc chez Les Belles Lettres, et qui donc a porté ses commentaires sur la réédition de l'ouvrage de William Röpke, « Au-delà de l'offre et de la demande », qui a été présenté par Patricia Comin, 258 pages, 35 euros, un ouvrage remarquable, une clarification lumineuse d'un concept d'une brûlante actualité. Merci à vous, Alain, et à
Merci
très bientôt.
Louis.
Merci.